Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, Francis Laloupo et moi sommes heureux de vous savoir nombreux à l'écoute chaque semaine du débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Bienvenue Francis Laloupo.
Bienvenue Liliane, bonjour à vous et merci pour cette belle introduction.
Merci et je vous signale Francis qu'à partir de la semaine prochaine, si vous n'arrivez pas à me convaincre de ne pas aller en Russie pour la Coupe du Monde de football, alors vous serez seul. Hein.
Ah oui, parce que vous partez effectivement.
Oui. Bah, oui,
on sera en duplex Paris-Moscou.
Vous ne faites rien pour me retenir ?
Bah, écoutez, vous serez très utile aussi à Moscou. Vous êtes utile partout, Liliane.
Mais je vous rassure, je serai bel et bien avec vous la semaine prochaine. Que peut le nouveau Premier ministre malgache et quelle est sa marge de manœuvre pour sortir l'île de la crise politique dans laquelle elle est plongée depuis quelques semaines ? Christian Tsey, fonctionnaire des Nations Unies, a été désigné par le président R. Radio Arimampian parmi trois candidats proposés à ce poste par l'opposition. La principale mission du nouveau chef du gouvernement, organiser des élections présidentielles et législatives crédibles prévues pour la fin de l'année. Le président ivoirien Alassane Ouattara a-t-il provoqué un séisme politique en annonçant qu'il pourrait briguer un troisième mandat à la tête de son pays en 2020 ? Ces déclarations ont suscité de vives réactions de la part de ses adversaires, mais aussi sur les réseaux sociaux. Pour certains, il doit éviter de se lancer dans un tel projet et sortir par la grande porte. D'autres, en revanche, soutiennent qu'il vaut mieux qu'il reste, même après la fin de son second quinquennat en 2020, au regard de la situation politique tendue et fragile du pays. Que fera Alassane Ouattara et peut-il réellement rempiler en 2020 ? Analyse à suivre. 32 équipes sont en compétition dont 5 africaines, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal pour le mondial de football qui débute le 14 juin prochain en Russie jusqu'au 15 juillet. Chacun des pays va aligner ses plus grandes stars et bien l'Afrique aussi qui en compte énormément. Leurs prestations seront particulièrement scrutées par leurs fans et supporters africains. Quelles sont les chances des 5 représentants du continent au mondial et jusqu'où iront-ils ? Analyse et pronostic dans cette émission. À vous Francis pour le plateau.
Oui Liliane, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Antananarivo, Béatrice Atala, ancienne ministre des Affaires étrangères de Madagascar, ancienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Madame Atala, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous et notre confrère invité dans cette édition au téléphone depuis Abidjan, Félix Bonny, rédacteur en chef du site d'information l'infodrome.com. Félix Bonny, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être là. Petite fiche de présentation de notre grand témoin invité, Béatrice Atala, magistrate de formation. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit privé et d'un certificat en études diplomatiques du Centre d'études stratégiques et diplomatiques. De décembre 2013 à janvier 2015, vous avez été la présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition, chargée d'organiser l'élection présidentielle de 2013, remportée par l'actuel président Herry Rajaonarimampian, une élection qui intervenait après la crise politique déclenchée en 2009 à Madagascar. Ministre des Affaires étrangères, de janvier 2015 à avril 2016, vous revendiquez le statut de personnalité apolitique. Vous siégez actuellement à la Commission de l'Océan Indien. Béatrice Atala, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, Dakar, Liliane.
Oui, Francis, et avant de parler de Madagascar, nos invités diront un mot, surtout que notre invitée, Madame Atala, est ancienne ministre des Affaires étrangères de son pays. Madame, donc, nous allons parler, juste un mot sur l'annonce faite par le président burundais Pierre Nkurunziza, qui ne se représentera pas en 2020. Il a fait ses déclarations alors qu'il promulguait la nouvelle constitution votée lors d'un référendum contesté par l'opposition et lequel lui permet de briguer, s'il le souhaite, d'autres mandats à la tête du Burundi. L'opposition en exil, en tout cas, doute de la sincérité du président à tenir cette parole. On écoute Charlène Ditigier, président de l'UPRONA, l'Union pour le Progrès National, au micro BBC Afrique de Ralu Ahmed Assalé.
Pensez que après avoir changé la constitution en enterrant l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et pour se donner deux autres mandats jusqu'en 2034, qu'après la promulgation de cette nouvelle constitution, et il va déposer le tablier en 2020. C'est être naïf. Non seulement je suis sceptique, je suis convaincu que M. Nkurunziza ne va pas changer d'avis, pas sa vision. Il veut gagner du temps, il veut séduire l'opinion. Je crois qu'il a compris que les pressions fusent de partout et que la marge de manœuvre est très étroite, y compris au sein de son camp.
Alors, Madame Atala, comment accueillez-vous cette annonce faite par le président Pierre Nkurunziza? Certains estiment qu'il s'agit simplement d'une stratégie pour lui, pour obtenir peut-être une levée des sanctions internationales et annoncer ensuite sa candidature à quelques mois de l'élection présidentielle.
Bah, pour moi, de mon côté, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et aussi ancien président d'une commission électorale, je salue une telle décision. Tout ce qui permet de renforcer la démocratie est louable et je pense que c'est la voie de la sagesse.
Mais vous avez suivi les doutes de l'opposition, madame.
Vous savez, il a déjà déclaré, donc je ne veux pas peut-être m'étaler sur ça. J'ai vraiment des amis à Burundi, donc je pense que c'est cette voie de la sagesse qui compte aujourd'hui et comment renforcer dans nos pays africains et surtout les pays francophones, renforcer nos jeunes démocraties aujourd'hui.
On va demander à Félix Bonny un commentaire également. Félix Bonny, vous accordez vous aussi le bénéfice du doute à Pierre Nkurunziza?
Ben, je pense que c'est une parole donnée, qu'il va respecter cette parole. Et d'ailleurs, nous, en interprétant cette position par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on se dit que c'est un bel exemple qu'il donne. S'il finit ce mandat, qu'il devrait vraiment partir en tenant compte, évidemment, de la situation du pays qui, ces derniers temps, était un peu sur le gré de l'actualité. Je pense que ce serait vraiment une bonne chose. Moi, je ne pense pas qu'il faille forcément douter de tout, parce que c'est aussi ça aussi le problème de nos oppositions qui, parfois, sont dans des positions radicales et finalement, ça nous conduit un peu à tout ce qu'on connaît. Il faut parfois aussi croire à la parole de celui qui est là, l'accompagner de sa parole pour que cela puisse se réaliser.
Est-ce que le fait de ne justement pas croire et de douter de cette parole n'est pas aussi, de la part de l'opposition, une stratégie ou une façon de lui mettre la pression et de le pousser justement à tenir cette parole? C'est-à-dire, à force de dire qu'on doute, cela peut justement mettre la pression sur le président pour dire, puisqu'on doute de moi, eh bien, je tiens des paroles.
Évidemment, je pense bien aussi que cela peut être une stratégie, mais il ne faudrait pas que ce soit un doute forcément cartésien au point où on doute pour douter, c'est-à-dire le fait de s'opposer pour s'opposer, finalement, ça n'aide pas ceux qui sont là à vouloir partir. Ça crée un peu une forme d'hésitation à leur niveau. Je pense que quand ils décident de partir comme ça, il faut parfois aussi l'accompagner sans forcément douter. Mais si c'est vraiment un doute stratégique, je crois que c'est toujours une stratégie. Il faudra que ce doute-là aussi ne crée pas aussi une radicalisation de leur position, qu'ils aident le président Nkurunziza à sortir par la grande porte.
À suivre en tout cas, Liliane. On va peut-être mettre le cap sur Madagascar, l'actualité malgache.
Oui, Francis, l'opposition malgache a donc multiplié les manifestations pendant plusieurs semaines pour protester contre l'adoption dite scandaleuse de 3 lois électorales début avril par le Parlement. Au départ interdites, ces marches ont été ensuite autorisées par le pouvoir que l'opposition a également accusé de vouloir la museler à quelques mois des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de cette année. Pour sortir de cette crise, le président a nommé un premier ministre de consensus sur injonction de la Haute Cour constitutionnelle sur les épaules de Christian Tsey, l'organisation transparente des élections à venir. Madame Atala, avant d'évoquer peut-être la mission confiée au premier ministre de consensus, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce qui a réellement provoqué cette grave crise politique dans votre pays? Quels sont les points qui faisaient problème dans les 3 lois électorales votées par le Parlement?
Merci de votre question. C'est vrai que j'étais un des artisans de la sortie de crise en 2013 pour Madagascar. À vrai dire, ce qui se passe à Madagascar aujourd'hui, comme je le dis souvent, ce n'est pas vraiment une crise, en tout cas pas comme celle que Madagascar a connue par le passé. C'est un rapport de force qui s'est engagé à travers un mouvement de contestation, mais il est vrai que ce mouvement est lié à l'organisation donc, des futures élections. Permettez-moi... Liliane, de vous donner quelques aperçus historiques, comme vous avez dit tout à l'heure, pour les enjeux et difficultés de ce code électoral qui est source de cette manifestation. Depuis donc la convocation des parlementaires, du Parlement à siéger en session le 21 février 2018 pour examiner donc les 3 projets de loi organique, La vie politique à Madagascar s'est essentiellement focalisée sur la réforme du droit électoral malgache. Donc, la révision du code électoral est indispensable, parce que même dans le rapport des observations électorales de l'Union européenne, ils ont souligné la révision substantielle du cadre juridique électoral afin de combler, il y avait des vides juridiques dans le code électoral de 2010 et aussi pour corriger des incohérences dans l'ancien code électoral. Donc, il y avait toutes ces commissions consultatives de réflexion et de propositions. Il y avait un comité interministériel présidé par le Premier ministre. Le code électoral a été adopté par l'Assemblée nationale le 3 avril 2018, adopté par le Sénat le 10 avril 2018 et révisé par la Haute Cour constitutionnelle. Le code électoral, je peux bien dire que le code électoral de 2010 n'est clairement pas approprié pour les élections de 2018. Parce qu'il y en a
d'accord, madame, on comprend que la révision du code électoral était nécessaire selon vous, mais qu'est-ce qui fait problème? Quels sont les points litigieux qui ont poussé l'opposition à occuper la rue?
Vous savez que le problème, je pense, chez nous, ce n'est pas le code électoral, mais c'est l'article 47 de la Constitution que depuis 2014 jusqu'en 2016, je n'arrêtais pas de faire part de mes soucis aux missionnaires des Nations Unies qui sont venus à Madagascar, à l'OIF, au président de la République en personne, en disant qu'on ne peut pas aller aux élections avec cet article 47. Il y avait tellement aussi des divergences dans l'interprétation de la Constitution et qui portent ses conséquences sur les éléments essentiels du processus.
Pouvez-vous nous préciser que dit l'article 47, madame?
Dans cet article 47, comme vous le savez, à Madagascar, on ne peut pas organiser des élections dans un délai concis de 30 jours, représente vraiment un véritable problème pour nous. Dans cet article 47, on parle du premier tour et deuxième tour en un mois. Comment faire dans un grand île comme Madagascar, avec toutes les contraintes possibles, les logistiques, ainsi de suite? Donc, le président de la République, conscient des difficultés qui se posent dans cet article 47, lors d'une rencontre avec la presse le 5 septembre, si je ne me trompe pas, 2017, avait pointé du doigt les incohérences des dispositions de l'article 47. Mais sans évoquer de manière exprès l'idée de retoucher cette disposition de la Constitution. Mais un an avant les élections, l'ensemble des acteurs politiques malgaches, ainsi que de nombreuses sociétés civiles, donc, étaient contre. Donc, le projet d'une révision de la Constitution a été abandonné par l'exécutif et dans son discours à la Nation en janvier 2018, le président de la République a évoqué de faire des élections cette année suivant la Constitution. Il y avait tellement de désaccords dans la compréhension d'éléments structurels du droit électoral, des divergences de l'interprétation de la Constitution, des malentendus sur le concept. Et voilà, depuis le 21 avril 2018, les 73 députés donc, ont invité la population sur le parvis de l'hôtel de ville d'Antananarivo appelé Place du 13 mai pour faire des rapports de leurs activités. Il y avait des affrontements, il y a des manifestations tous les jours pour réclamer la déchéance du président de la République, il y a des changements d'étiquette des 73 députés en députés de changement. Les députés ont porté plainte à la Haute Cour constitutionnelle pour déchéance donc, du président de la République, au tribunal de première instance, au Bianco, au Bureau international anti-corruption. Et le 25 mai dernier, donc, la Haute Cour constitutionnelle a rendu sa décision.
Merci, madame. Donc, on en est là et cette décision qui a donc obligé le président à nommer un premier ministre de consensus, c'est qui est fait? Francis?
Oui, madame, ces lois qui étaient contestées, ces articles de loi qui étaient contestés ont été quand même rétoqués par la Haute Cour constitutionnelle. Est-ce que les critiques des opposants étaient fondées lorsqu'ils considéraient que ces lois étaient favorables au pouvoir et défavorables à certaines personnes, certaines personnalités bien indiquées, bien signalées, c'est-à-dire Andra Joël et Marc Ravalomanane?
Vous savez que la Haute Cour constitutionnelle a recalé certains articles, c'est vrai. Mais ils n'ont pas rejeté le projet en soi.
Mais ce sont les lois qui étaient c'était les lois qui posaient problème, qui étaient contestées par l'opposition, qui ont été retoquées.
Oui, c'est quelques articles dedans. Donc, à mon avis...
La question, par exemple, de la présentation d'un casier judiciaire pour pouvoir se présenter à une élection présidentielle.
Voilà. Donc, moi, je peux vous dire tout simplement, au risque de peut-être de vous décevoir, je ne peux pas commenter une décision de justice étant moi-même magistrat, mais je pense que la Cour constitutionnelle, ils ont cherché une solution d'exception politique.
Je vous pose la question parce que tout à l'heure, vous disiez qu'au fond, ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays n'est pas véritablement une crise, mais c'est un rapport de force entre forces politiques qui s'exprime aujourd'hui sur dans la rue, pratiquement, puisqu'il y a eu des manifestations tous les jours depuis le 21 avril. Mais est-ce qu'on n'assiste pas plutôt, je dirais, à un rapport de force entre des personnes, entre des acteurs politiques parfaitement identifiés, c'est-à-dire Marc Ravalomanana, Ange Raduel et le président en exercice?
C'est vrai que nous sommes en période préélectorale hein, et l'opposition veut engager, comme vous le dites, un rapport de force avec le pouvoir pour se faire une place aussi dans l'opinion. C'est donc la suite logique de ce rapport de force engagé. En tout cas, la Haute Cour constitutionnelle, pour moi, n'a pas prononcé pour le moment donc pour la déchéance du président, mais a demandé la mise en place d'un gouvernement de consensus. Il faut rappeler qu'avec cela, donc, ce nouveau projet de loi a d'abord été contesté en place publique par les députés de l'opposition qui ont pointé du doigt les conditions de son adoption. Donc maintenant, comment il faut faire pour aller pérennement vers les élections avec ce code électoral qui est déjà promulgué?
Madame Béatrice Attala, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre a été choisi au sein de l'opposition, hein, parmi les noms proposés par l'opposition, et plus particulièrement par le parti Maparne de Ange Raduel. On assiste donc aujourd'hui à une cohabitation au sommet de l'État. À quoi sert le président de la République aujourd'hui dans ce nouveau contexte?
Mais vous savez, M. Francis, hein, c'est ça?
Oui. Oui, c'est ça, madame.
En 2013, je ne dis pas le problème pour Madagascar, quand on fait la différence entre 2013 et 2018 aujourd'hui, c'est qu'en 2013, on avait cette feuille de route, on avait cette mini. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à maintes reprises, quand j'ai rencontré les chefs d'église et tous les missionnaires internationaux qui sont venus à Madagascar en disant « Attention, en 2018, il n'y a plus de nini, il n'y a plus de feuille de route, donc tout le monde peut... » les conditions tout simplement des élections de 2018, c'est l'inclusivité. Donc tout le monde doit se présenter, devrait se présenter. Donc nous, en 2013, parce qu'il y avait tellement cette crise de 5 ans, qu'il y avait cette feuille de route dont tous les acteurs politiques malgaches, ils ont signé, ils ont accepté. Et voilà où en est nous. Donc aujourd'hui, je pense que la voie de la sagesse et que tout le monde aussi est conscient de ces problèmes et il faut maintenant se voir sur cette décision de la Haute Cour constitutionnelle et selon la Constitution. Donc, le président de la République a accepté de nommer un des trois noms qui a été donné par le président Raduel parce que c'est
à dire l'opposition.
Oui, l'opposition. Donc, il a choisi ce grand technicien. Et d'ailleurs, je profite l'occasion pour le féliciter.
Oui. Il faut attendre qu'on soit au gouvernement qui n'est pas encore composé. Ce n'est pas encore fait.
Ah, voilà. Donc, c'est vrai qu'il a une lourde tâche aujourd'hui, mais j'ai confiance à sa sagesse, car c'est un homme très modéré, un grand technicien. Et il va choisir, je pense, parce que n'oublie pas que dans l'article 9... dans la décision de la Haute Cour constitutionnelle, il parle de gouvernement de consensus qui doit assurer la neutralité de l'administration tout au long du processus électoral.
Merci beaucoup, madame. Donc, on va marquer une pause et on parlera d'ailleurs dans la suite de cette émission de la marge de manœuvre dont dispose le nouveau Premier ministre.
Le débat Africa BBC.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin depuis Antananarivo, Béatrice Attala, ancienne ministre des Affaires étrangères de Madagascar, ancienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Et notre confrère invité depuis Abidjan au téléphone, Félix Boni, rédacteur en chef du site d'information l'infodrome.com. Liliane,
on vous
passe la parole pour suivre ce débat,
Francis,
sur l'actualité malgache.
Voilà. Félix Boni, alors, un commentaire sur cette évolution de la crise malgache. Mais je souhaiterais que dans votre réponse, vous nous disiez ce que vous pensez du fait que finalement, ce sont les Malgaches qui ont eux-mêmes trouvé la solution à cette crise, même si, même si la crise se poursuit. Mais on va voir que c'est une solution malgache qui a fini par l'emporter, alors qu'il y avait l'Union africaine, la SADC et l'ONU qui étaient impliqués dans la recherche de solutions.
Justement, c'est pourquoi quelqu'un disait qu'il faut des institutions fortes et pas des hommes forts dans nos différents pays. Et je crois que la haute cour
constitutionnelle... Ce quelqu'un, c'était Obama.
Oui, c'était Obama, bien sûr, au Ghana, qui l'a dit. Et je pense que la haute cour constitutionnelle de Madagascar vient de montrer que quand on a des institutions fortes comme ça dans nos pays, ça peut permettre de résoudre nos problèmes sur place ici. Et ça,
il y a aussi peut-être eu l'ultimatum de l'armée à travers le ministre de la Défense.
Bien évidemment, le ministre de la Défense
qui a sommé le pouvoir et l'opposition de trouver un terrain d'entente.
Effectivement, et bien évidemment, le ministre de la Défense également qui a sommé les dirigeants politiques de prendre leur responsabilité, auquel cas l'armée pourrait éventuellement monter en première position. Et ça a dû certainement pousser tout le monde à vouloir très vite aller à une solution. Mais comme l'a dit tout à l'heure Mme Béatrice Atala, je pense bien qu'il s'agit d'un véritable problème de personnes, un problème de rapport de force. Et moi, je vois déjà le président Eri et Angela Rajoel, qui étaient bien des complices auparavant jusqu'à l'arrivée au pouvoir du président Eri et qui finalement ont dû se séparer à un moment donné. Aujourd'hui, Angela Rajoel a encore la cote dans son pays, et je pense que ce rapport de force va permettre, et d'ailleurs on le voit vers la sortie, le président actuel va conduire encore éventuellement à l'arrivée, la montée en première position de l'opposition qui est composée de Ange Rajoel, également de l'ancien président
Bakravalumanana.
Je crois que c'est un rapport de force qui va permettre à ces anciens dirigeants de pouvoir revenir en première position, parce que pendant ce temps, ils ont réussi quand même à affaiblir dangereusement le président Eric.
Mais Félix Boni, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter de cette lutte entre personnes qui prennent finalement en otage le peuple malgache, parce que on voit bien que voilà, ce sont des combinaisons politiciennes comme ça. Vous disiez vous-même à l'instant que Angela Rajoel était plutôt proche de l'actuel président Eri. Angela Rajoel qui devait aujourd'hui un allié objectif de son pire adversaire, Marc Ravalomanane, pour se dresser contre l'actuel président. Ce sont quand même des combinaisons politiciennes qui ne font pas avancer, je dirais, la situation plutôt précaire à Madagascar, parce que c'est quand même un pays où la population vit une situation économique particulièrement inquiétante, préoccupante.
Mais qu'est-ce qui vous étonne, Francis? Je pense que c'est pratiquement la même chose si on part de Madagascar, qu'on sort de Madagascar pour arriver sur d'autres cieux en Afrique, c'est pratiquement la même chose. C'est la classe dirigeante, ce sont toujours les mêmes acteurs qui se luttent le pouvoir entre eux. Allons-y au Congo démocratique, revenons en Côte d'Ivoire.
Ou
à la Guinée, ce sont toujours les mêmes acteurs. Donc je pense que c'est un peu le mal congénital sur notre continent, et donc ça ne tourne pas. Mais c'est cela aussi, nos peuples devaient pouvoir prendre leur responsabilité par fois aussi, mais malheureusement ce sont les mêmes acteurs, on ne peut que choisir l'un parmi les trois qu'on vient de citer tout à l'heure pour Madagascar, et ce sera toujours la continuité.
Rajoel, Ravalomanane
et demain on va se retrouver, si c'est l'un des deux, on verra les deux qui vont se retrouver encore dans l'opposition, et la route tourne comme ça, c'est dommage pour notre continent.
Madame Atala, je parlais de la marge de manœuvre du Premier ministre, non seulement pour former un gouvernement, vous le disiez, neutre, consensuel, mais surtout pour imposer les règles de jeu à tous les camps politiques dans la perspective des élections législatives et présidentielles d'ici la fin de l'année.
De toute façon, lors de sa passation de service ou de pouvoir de consensus le 6 juin dernier, il a tracé déjà en 5 points ses priorités aujourd'hui, parce que comme disait le monsieur tout à l'heure, n'oublie pas qu'il y a cette décision de la Haute Cour constitutionnelle dans son article 8, 9, il y a 14 articles dedans maintenant qu'il faut suivre à la lettre. C'est en quelque sorte la feuille de route pour tout le monde aujourd'hui, la décision de la Haute Cour constitutionnelle.
Mais est-ce qu'il va justement pouvoir avoir carte blanche pour dérouler cette feuille de route?
Bien sûr, parce que Madagascar est dans une année électorale aujourd'hui. Le Premier ministre de consensus a déjà bien mentionné dans sa priorité, dans sa première priorité, c'est la préparation des élections, transparentes, crédibles, et dont les résultats seront acceptés par tout le monde. Maintenant, il est en train de mettre en place son gouvernement, parce que le gouvernement, n'oublie pas aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça devrait être un gouvernement de consensus qui devrait assurer la neutralité de l'administration.
Et vous-même, est-ce que vous aspirez à un poste dans ce nouveau gouvernement, madame?
Je n'ai pas été consultée pour cela.
Si vous étiez consultée, vous l'accepteriez?
Important, comme vous l'avez rappelé, je laisse la place aux autres. Et si je peux apporter mes connaissances et mes expériences pour mon pays, je le ferai toujours avec honneur. Je suis citoyenne avant tout.
Oui. On ne connaît pas encore la date précise de la présidentielle, madame Atala. Vous avez été présidente de la Commission électorale nationale indépendante lors de la transition. La question du financement de la présidentielle est toujours posée. D'ailleurs, il y a quelques semaines, c'était en mars dernier, la Commission électorale nationale indiquait qu'il lui était difficile d'indiquer si le budget mis à sa disposition était suffisant ou non pour ces élections. Est-ce que le pays aujourd'hui a les moyens de financer ce processus électoral ou alors il faudra recourir une fois de plus aux partenaires étrangers pour financer ce processus?
Il y a déjà, et quand même dans la loi de finances 2018, il y a déjà des tracés de cet budget pour les élections. Mais comme vous le savez, le gouvernement de consensus devrait aussi arrêter avec la CENI, la commission électorale, l'organisation d'une élection anticipée. C'est dans l'article 8 de cette décision, mais sous condition. Donc les conditions aujourd'hui, c'est quoi? C'est les financements, c'est les matériels. Pour moi, la seule manière, en tant qu'ancien président de la commission électorale de la CENIT, de sortir de cette crise et de préserver surtout les acquis des élections de 2013. N'oublie pas que les élections de 2013, on a travaillé conjointement en collaboration avec les Nations Unies. Donc, c'est de promouvoir le dialogue avec tous les protagonistes, les acteurs politiques, les élus du changement, les autres élus, et de le faire dans le cadre d'une institution et dans le respect de la Constitution et de la décision de la Haute Cour constitutionnelle du 25 mai 2018, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une feuille de route. Et pour garantir la tenue des élections aussi, je pense que le Premier ministre peut mettre en place un mécanisme.
En fait, c'est le Premier ministre
ça dépend de ce mécanisme de voir est-ce que les moyens sont là, est-ce que les matériels sont là. Est-ce que techniquement, on est prêt à faire des élections anticipées en 2 mois ou en 3 mois?
On n'a pas les réponses.
Ça, c'est, je pense, c'est le grand boulot du Premier ministre aujourd'hui.
C'est lui qui va devoir finalement faire tous ces grands travaux parce qu'il y a une disposition très particulière dans votre constitution, madame. C'est que le président en exercice, le président sortant, monsieur Herry, en l'occurrence, s'il était candidat, il devrait donc démissionner entre-temps pour pouvoir donc aller en campagne et se mettre dans une posture de candidat exclusivement. Est-ce que ça ne crée pas un vide, je dirais, au sommet de l'État? Ou alors il faut s'en remettre à ce moment-là intégralement au Premier ministre pour diriger les affaires du pays?
Je rigole aujourd'hui, monsieur, parce que depuis 2014, à la sortie de la CENIT, nous-mêmes à la CENIT à l'époque, c'est parmi les articles de cette Constitution que j'ai relevé, même avec les missionnaires des Nations Unies, en leur disant comment on va faire des élections en 2018, avec déjà l'article 46, où le président de la République doit démissionner 60 jours avant les élections, qui n'existe nulle part au monde.
Ça n'existe nulle part. Hein.
Sans compter l'aspect aussi que vous avez relevé concernant l'article 47.
L'article 46, c'est déjà la démission du président. L'article 47 parle de 1 mois pour faire les élections.
D'accord.
Je vous assure, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, quand je reparlais de mes soucis avec la l'OIF, la France, les Nations Unies, et même le président de la République, tout le monde me disait que les partis politiques malgaches, les acteurs politiques malgaches, ne veulent pas toucher à la Constitution.
Oui. Merci.
Et moi, je leur ai dit, je veux être observatrice pour regarder comment on va organiser les élections.
Merci
et comme
beaucoup.
Vous avez
dit,
d'ailleurs, je reviens à votre question, c'est vrai, si au cas où je ne dis même pas des vides institutionnels, mais des vides diplomatiques, si au cas il y a quelque chose qui se passe dans le monde entier. Est-ce que l'intérim du président de la République peut prendre la décision pour Madagascar? Et nous, aujourd'hui, on est dans ça. Il démissionne 60 jours avant les élections.
Merci, madame. Prochain sujet.
Le débat Africa BBC.
En duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité depuis Antananarivo à Madagascar, Béatrice Atala, ancienne ministre des Affaires étrangères de Madagascar, ancienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Et notre confrère invité depuis Abidjan au téléphone, Félix Bonny, rédacteur en chef du site d'information l'infodrome.com, édité donc en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à présent, justement, avec cette question, Alassane Ouattara, pourrait-il être candidat en 2020 ? Pour certains, il s'agirait d'une pure provocation. Il faut dire que dans une interview, dans le dernier numéro de Jeune Afrique, l'hebdomadaire, à la question de savoir s'il pourrait se représenter pour un troisième mandat lors de la présidentielle de 2020, le président ivoirien Alassane Ouattara a répondu, je cite, « La nouvelle constitution m'autorise à faire deux mandats à partir de 2020. Je ne prendrai ma décision définitive qu'à ce moment-là, en fonction de la situation de la Côte d'Ivoire. La stabilité et la paix passent avant tout, y compris avant mes principes. » Fin de citation. Alors, les réactions ont été immédiates. Après la publication de cette interview, des propos condamnés par le Front populaire ivoirien d'Afi Nguessan et aussi par plusieurs membres du PDCI, parti allié au pouvoir pour le parti de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, la déclaration désormais ouverte de candidature d'Alassane Ouattara constitue, je cite, une pure provocation contre le peuple ivoirien, car l'idée d'un troisième mandat anticonstitutionnel anticonstitutionnel, inacceptable et irréaliste en Côte d'Ivoire. Fin de citation. Alors on le voit, les propos d'Alassane Ouattara ne sont pas de nature à apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire, y compris dans son propre camp. Alors première question pour vous, Félix Bonny, vous êtes sur place à Abidjan. Ces propos, bon évidemment, on imagine bien, n'ont pas été livrés par hasard à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Quel objectif visait-il précisément selon vous? Est-ce que le président Ouattara pouvait ignorer que cela allait provoquer de telles vagues?
Je ne pense pas que le président Ouattara ait ignoré que ça allait prêter une telle vague. Je pense que ça participe de la stratégie politique. Ça peut être un bon coup d'essai pour voir la réaction qu'on pourrait avoir en face, pas seulement au niveau des Ivoiriens, mais évidemment aussi au niveau de l'international, pour voir un peu, jauger un peu la réaction qui pourrait en ressortir et voir un peu si le terrain peut être favorable. Parce que pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut plutôt faire attention à ce que ce qu'on considère comme un coup de bluff ne devienne une véritable réalité. Parce qu'apparemment, ce n'est pas aussi par hasard que l'on a écrit la nouvelle constitution. On aurait pu facilement faire une révision comme cela avait été initialement envisagé. Et une révision de la constitution nous aurait évité la polémique d'un troisième mandat, là où la réécriture de la nouvelle constitution qui ouvre la porte à une nouvelle république ouvre également la voie à une possible interprétation des textes fondateur de la Côte d'Ivoire. Donc, du coup, je ne pense pas véritablement que ce soit un coup de hasard, mais c'est certainement un coup politique bien pensé pour voir les réactions en face. Et voici éventuellement en 2020 qui se profile dans 30 mois. Il va falloir qu'il franchisse le cap ou pas.
Et à qui, selon vous, Félix Bonny s'adresse prioritairement ou principalement l'annonce du président Ouattara? Est-ce que c'est à son camp politique? Est-ce que c'est réellement à ses adversaires? Je pose la question parce que au sein du RDR, son parti, on a souvent évoqué des rivalités entre certaines têtes fortes de ce parti qui souhaitaient succéder à Alassane Ouattara en 2020.
Vous avez bien vu que dans son interview, le président Ouattara ne faisait pas de ses adversaires internes au RDA une préoccupation. Quand on parle de Guillaume Soro, le président Ouattara dit comme ça que sa trajectoire dépend de lui seul. Quand on parle du Premier ministre, il dit, écoute, c'est une bonne chose. Amadou Gon Coulibaly, il se dit que c'est une bonne chose aussi. Il envisageait et je lui souhaite bonne chance. C'est des réponses lapidaires qu'il a dû envoyer. Mais je pense que c'est plutôt...
Et Bakayoko?
Bakayoko, il n'en parle pas véritablement dans son interview, parce que Bakayoko, d'ailleurs, n'est pas véritablement une tête forte qui compte parmi ceux qui pourraient éventuellement succéder au président Ouattara.
Mais la rivalité Ahmed Bakayoko, Guillaume Soro a longtemps été évoquée par la presse ivoirienne.
Depuis que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris le dessus, je pense qu'Ahmed Bakayoko, dans l'antichambre, là où le Premier ministre maintenant est plutôt à la porte de la chambre, Je pense que le président Ouattara s'adressait plutôt à ses oppositions, je vais dire à ses alliés du RHDP, mais plutôt à l'extérieur également. C'est un message qui permet à ses alliés du RHDP de comprendre que qui n'a pas encore lâché, j'allais dire, les manettes du pouvoir, hein, parce que le PDCI déjà pointe du nez et réclame une alternance en 2020 avec un militant actif du PDCI-RDA, là où le président Ouattara pense que celui qui doit lui succéder devra être désigné par consensus, éventuellement celui qui sera le meilleur au sein du RHDP. Donc s'il n'y a pas de meilleur, lui-même est éventuellement pour la paix, comme il a dit, et il est prêt à enfreindre à ses principes personnels de ne pas se représenter pour se présenter en 2020.
Donc vous voulez dire que les vraies personnes qu'il devrait ou qu'il devra convaincre en cas de troisième mandat en 2020 se trouvent en dehors du RDR,
évidemment,
mais plutôt du côté de son allié, le PDCI.
Évidemment, en dehors du RDR, mais par contre, il ne faudrait pas ignorer aussi, vous ne pourrez pas dire mépriser aussi la force politique de Guillaume Soro, qui est au sein de cet appareil du RDR, quand même tient un bon bout. Je pense qu'aujourd'hui, Soro peut peser quand même le tiers du RDR. Donc du coup, même si le président devait se présenter en 2020, il ne faudrait pas qu'il perde ce tiers-là, parce qu'il faut d'abord compter sur la maison avant de vouloir compter sur ses alliés. Et au niveau des alliés, le président ne peut pas véritablement compter sur Henri Konan Bédier et le PDCI-RDA, même s'il y a certains cas du PDCI-RDA qui essaient de rouler pour le président Ouattara. Aujourd'hui, par exemple, la dernière décision qui vient de tomber, c'est celle de ce jeudi 7 juin, où le président Bédier vient de démettre de sa fonction de délégué communal du PDCI-RDA. Un de ses cadres, un de ses députés qui a pris fait cause quand même pour le parti unifié qui prend le président Ouattara. C'est la preuve qu'entre les deux alliés,
cela signifie que Bédier n'est pas tout à fait d'accord sur la même longueur d'onde avec le président Ouattara.
Il n'est pas du tout d'accord et il n'accepte plus désormais que certains cadres proches de son parti prennent position pour le président Ouattara. Il y a deux semaines, il démettait son porte-parole, le ministre des Ressources halieutiques et animales Adjumani, qui l'a démis de son poste de porte-parole du PDCI et même du RHDP, pour nommer de nouvelles personnes, comme quoi le président Bédier a besoin de gens qui peuvent relayer des voix dans le sens de la reconquête du pouvoir avec un militant actif du PDCI-RDA, ce que le président Ouattara ne souhaite vraiment pas entendre de lui.
Ce qui remettra en cause l'accord supposé passé entre les deux hommes, selon lequel c'est un candidat PDCI qui devait être présenté en 2020.
Le président Ouattara, d'ailleurs, ne se reconnaît pas dans cet accord.
Oui,
il a dit clairement.
Oui. C'est un accord qui n'a pas été écrit, évidemment.
Évidemment.
Oui, Félix Bonnier, encore une question à vous. Quand Alassane Ouattara dit voilà, que la stabilité et la paix passent avant tout, on peut se demander finalement si l'annonce probable de sa candidature contribue réellement à garantir la paix dans le pays ou plutôt à entraîner une nouvelle montée de tension.
Moi, je ne pense pas que l'annonce probable d'une troisième candidature du président Ouattara contribuera à garantir la paix dans le pays, parce que les réactions en face déjà, et même de l'Ivoirien lambda, je pense que de plus en plus le principe de deux mandats pour un chef d'État est ancré dans les esprits des Ivoiriens, y compris, je ne veux même pas parler de la classe politique des Ivoiriens de façon générale. Mmh. Donc on a beau être le meilleur président de la République, je pense qu'un troisième mandat, ça, c'est vraiment risqué, c'est vraiment prendre le risque de voir un peu pour se soulever contre soi. Et ça risque de plutôt mettre de l'huile sur le feu que de créer une situation apaisée.
Donc ce qui représente la vraie menace pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le maintien, ce n'est pas le départ du président Ouattara conformément à la Constitution, mais c'est plutôt son maintien.
Mais je pense que ce qui constituera véritablement une solution à l'apaisement de la situation en Côte d'Ivoire, c'est plutôt le passage de flambeau dans des conditions démocratiques bien élaborées, c'est-à-dire que tous les acteurs politiques s'entendent sur des conditions d'aller à des élections véritablement apaisées, des élections inclusives qui vont prendre en compte aussi bien l'opposition que celui qui sortira d'éventuellement la coalition du pouvoir pour être le candidat. Et qu'en 2020, pour la première fois en Côte d'Ivoire, on ait un président sortant qui va passer le flambeau à un président entrant sous le perron de la présidente de la République, comme on l'a vu pour le Bénin, entre le président Yahi Boni et son successeur
Patrice Talon.
Ou encore au Ghana voisin.
Ou au Ghana voisin.
Voilà,
oui.
On va écouter
ou
madame.
Ou encore Libéria.
Voilà, tout à fait, Francis.
On peut citer beaucoup d'exemples en Afrique de l'Ouest.
Ah oui, et en Afrique anglophone, même si le Bénin fait quand même exception, comme Félix vient de le mentionner. Bien, il y a aussi le Sénégal. Voilà. Madame Atala, quelle est votre analyse générale de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, l'éventuel troisième mandat du président Ouattara? Vous, ancien ministre des Affaires étrangères, s'il vous consultait, que lui diriez-vous?
Vous savez, je pense que dans tous nos pays africains aujourd'hui, ça revient toujours ce problème de mandat, d'accord politique. Je pense que c'est en tant que francophone, est-ce que le moment n'est pas venu pour nous, pour vous, les jeunes, pour tous les acteurs politiques des pays africains, de mettre quelque chose dans les règles aujourd'hui, un genre de modèle un peu acceptable par tout le monde, par la population. Une constitution, je ne dis pas, bon, bah, ça ne dit pas peut-être une constitution qui est idéale, mais pour mettre en place ce genre de mandat. Et pourquoi dans d'autres pays, il n'y a pas d'annulation en disant qu'il n'y a que deux ou trois mandats tout simplement, mais les gens ils peuvent se présenter. Mais pourquoi dans d'autres pays ça existe?
Mais justement, en un mot, madame, pour le cas de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara qui dit qu'il pourrait se représenter en 2020 alors que la Constitution le lui interdit, il affirme que l'ancienne Constitution lui permet de remettre le compteur à zéro. Vraiment, en 30 secondes, madame, qu'est-ce que vous pensez de cette démarche?
Vraiment, ce qu'il faut penser, c'est surtout, comme il l'a dit, la stabilité et la paix passent avant tout. Voilà ce qu'il a dit. Donc, je pense que...
Et ça passe par quoi, son maintien au-delà de 2020 ou son départ?
Écoutez, moi, je ne peux pas, prononcer sur ça, mais je pense que la voie de la sagesse va toujours. Et le président Alassane Ouattara est un grand homme, donc il va voir qu'est-ce qui est bien pour son pays ou ce qui n'est pas bien. Pour aller vers cette stabilité et la paix. Et n'oublie pas que nous, aujourd'hui, dans 2030, on va être jugés par les Nations Unies pour le développement durable dans nos pays.
Madame, est-ce que vous n'êtes pas en train d'appliquer là un devoir de réserve par anticipation au cas où vous seriez appelé au gouvernement prochainement?
Oui, parce qu'on se disait, en tant qu'ancienne ministre des Affaires étrangères, vous n'êtes plus en fonction, donc a priori, la parole, vous devez avoir la parole libre, madame.
Non, je suis magistrat, j'ai quand même mes obligations de réserve. Oui.
Très bien. Francis, on va passer au football, votre domaine favori, je pense. On va parler des cinq pays africains qui vont défendre le continent à la Coupe du monde de football qui commence jeudi prochain en Russie avec l'affiche Russie-Arabie Saoudite. Le même jour, le Maroc sera la première équipe africaine à entrer en lice contre l'Iran. Félix Bonny, sur les cinq pays africains présents, on a dit l'Égypte, le Maroc, le Nigeria, la Tunisie et le Sénégal. Seul le Sénégal a déjà eu à franchir le cap des quarts de finale en cette compétition. Je veux dire, parmi les cinq pays qui participent à cette compétition, laquelle des cinq équipes, selon vous, au regard des matchs de préparation et de votre connaissance, des performances récentes de ces pays, peut faire mieux que l'Égypte et aller le plus loin possible?
Ben, j'avoue que je suis très embarrassé par votre question parce que quand je regarde ce quintet africain, je me dis que c'est un quintet qui pourra éventuellement nous faire plaisir parce que ce soit l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria, la Tunisie, je pense que c'est cinq grandes nations de football sur notre continent. Et le Sénégal nous l'a déjà prouvé, c'est un Sénégal qui est véritablement en jambes aujourd'hui avec un entraîneur local. L'Égypte également nous le prouve également aussi aujourd'hui qu'il est capable également de créer la surprise, même si... si elle joue dans une poule avec la Russie, le pays organisateur. Donc finalement, moi, je mise véritablement, si ça ne tenait qu'à moi, sur le Sénégal, l'Égypte. Et évidemment, je n'exclus pas le Maroc avec un certain
Renard
qui est véritablement un Renard sur le terrain.
Sur trois équipes sur cinq.
Sur trois équipes sur cinq.
Pour passer le cap du premier tour.
Du premier tour, au moins.
D'accord. Francis?
Ah, écoutez, là, vous mettez dans l'embarras parce que ma culture footballistique, vous le savez, est très lacunaire. Vous avez fait exprès, évidemment. Non, je vais juste me contenter de me tourner vers Béatrice Atala pour constater l'absence de Madagascar dans la compétition.
Madame, quelles sont les chances, justement,
de... On a des représentants de l'Afrique, donc on va être tous derrière cette...
Nous sommes tous égyptiens, marocains, nigérians, tunisiens et sénégalais.
Voilà.
Mais madame, peut-être Francis pose la question parce que c'est quand même un de vos compatriotes qui dirige la CAF. Et ce qui me permet peut-être de vous demander de réagir hein, sur le scandale de la corruption qui a éclaté au Ghana. Et un scandale qui a éclaboussé tout le football. On a vu des arbitres dans un documentaire réalisé par un journaliste, des responsables de football en train de prendre de l'argent ou demander de l'argent en échange des diverses faveurs.
Bah, écoutez, moi, je comme le dit le monsieur tout à l'heure, je suis un petit peu, j'aime bien les foot et j'ai deux grandes amies très proches qui sont des gens sages et honnêtes qui sont à la CAF et la FIFA maintenant, dont Mme Fatma Kamoura.
La Sénégalaise qui est secrétaire générale de la FIFA.
Voilà, qui était avec moi un des artisans aussi de la crise de Madagascar en 2013, la sortie de crise, donc... Et ce sont deux personnalités aujourd'hui, dont le président Ahmad, aussi à la CAF. Donc, c'est...
Mais madame, la corruption en général dans le football, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, ça existait déjà. Donc, je suis certain qu'ils sont là pour rectifier des choses et pour voir ce qui est bien pour les foot dans le monde aujourd'hui. Donc,
Francis, voilà. on va peut-être demander à Félix... c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de la Coupe du Monde, mais c'est aussi du football avec ce scandale. Vous l'avez suivi, Félix?
Oui.
Voilà, le scandale, quasiment, c'est au Ghana, certes, mais au niveau de la FIFA et des fédérations nationales, c'est un sujet qui revient régulièrement.
Justement, le football est devenu un gros business au point où aujourd'hui, c'est un domaine, c'est une industrie dans laquelle éclate beaucoup de scandales. Et ce cas du Ghana, je pense que au-delà du Ghana, c'est peut-être dans tous nos pays qu'il va falloir ouvrir les yeux parce que la corruption est devenue une monnaie courante. Et même pour les élections à la CAF ou même à la FIFA, je crois qu'il y a beaucoup de...
Et y compris même pour les tirages au sort.
Évidemment, y compris
pour
également
pour les compétitions
aussi,
comme la Coupe du Monde qui se joue la semaine prochaine.
Les arbitres qui de plus en plus sont des arbitres, on a vu combien de fois des arbitres... vous avez suivi le classico au niveau ou la Ligue au niveau de l'Europe, tous des arbitres qui sont vraiment complaisants sur le terrain. Tout ça s'enlève vraiment du charme au football qui devait être une compétition ouverte avec des règles bien établies pour permettre aux meilleurs d'être véritablement le meilleur.
Merci Francis. Beaucoup. Ben écoutez, Liliane...
Si vous permettez, je vais peut-être demander à Félix
Voilà. Allez-y.
Cette semaine, Félix, il y a aussi eu une polémique ici à Dakar sur la présence annoncée du président Macky Sall en Russie pour soutenir l'équipe nationale sénégalaise.
En vacances.
Voilà, tout à fait, mais officiellement. Mais l'opposition estime, Francis, que l'argent du contribuable ne devrait pas servir à financer de tels voyages, qualifiés de voyages de villégiature par l'opposition. Est-ce que vous pensez que cette polémique ou de telles polémiques ont leur place?
Moi, je pense que cette polémique ne devrait pas avoir sa place parce que aller soutenir l'équipe, leur apporter un appui, les galvaniser, et si le prudent d'un pays a la possibilité de le faire, je pense qu'il faudra le faire. Ce n'est pas forcément une villégiature. Est-ce que le président de la République, de sa poursuite, le président de la République, va concevoir une mission en Russie pour aller en villégiature? Je pense qu'il est allé pour soutenir, apporter un appui à cette équipe. Et d'ailleurs, toute l'Afrique nous appuyons, et moi qui suis voisin du Sénégal en Côte d'Ivoire, nous appuyons le Sénégal pour que le Sénégal, si je pouvais faire le voyage, je l'aurais fait avec le président.
On vous le souhaite, Félix Boni.
Et je vous ferai parvenir un maillot du Sénégal à Francis aussi.
À présent, voilà. Écoutez, Liliane, c'est avec un bonheur non dissimulé que je vais annoncer les messages de nos auditeurs sur Internet. Message recueilli et livré à présent par Sandra Bassamam.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici les réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur Madagascar, Albin Betimangue juge que la nomination de Christian Saï au poste de Premier ministre va adoucir la crise. Et il spécifie que les conflits africains prennent du temps avant de se résoudre définitivement. Pancras Lovou abonde dans le même sens pour dire que cette nomination a été faite pour apaiser la tension politique dans laquelle végète la Grande-Île depuis quelques semaines et notre fidèle auditeur reste convaincu qu'une action de développement ne sera entreprise qu'après la prochaine élection présidentielle. Sur la Côte d'Ivoire, Abraham Bakoum Koulibaly pense que si le président Alassane Ouattara veut briguer un troisième mandat, il pourra le faire sans difficulté majeure. Car selon lui, la jeunesse ivoirienne est passive et que la société civile reste très inactive. Enfin, sur la Coupe du Monde, Charles Bazema déclare « J'ai foi aux 5 équipes africaines. Nous ne voulons pas revivre le scénario de 2014 où les joueurs réclamaient leur prime de match ». À ce propos, Memphis Kitty lui répond que si les primes des joueurs sont payées à temps et que l'organisation autour des équipes africaines est parfaite, on aura au moins 2 équipes en 8e de finale. Merci à Christian Govielier qui nous a rejoints sur la page Facebook. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/debabbcafrica et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Sandra Bassabam. On va demander à notre grand témoin Béatrice Atala de nous livrer une conclusion, une brève conclusion en 30 secondes s'il vous plaît madame.
D'accord monsieur, écoutez, que le problème de ce consensus, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une lourde responsabilité aujourd'hui. C'est vrai que pour apaiser les tensions, il est là, qui ne va pas être facile, mais j'ai confiance à sa sagesse. C'est un bon choix, car c'est une personne très modérée, un grand technicien.
Est-ce que le plus dur est passé, madame?
Quand la mise en place des gouvernements, il faut avoir confiance. Il va travailler avec force et vigueur dans l'accomplissement de sa mission et surtout pour l'intérêt supérieur de la nation et pour le peuple malgache. Car cette année, les électeurs de Madagascar donneront leur avis à travers les élections libres et transparentes. Merci à BBC, ainsi qu'à vous tous, journalistes et techniciens, de m'avoir invité à cette émission.
Merci à vous.
Merci beaucoup à mes frères et sœurs du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Merci.
Merci beaucoup, Béatrice Atala. Merci infiniment. Ancienne ministre des Affaires étrangères de Madagascar, ancienne présidente de la Commission électorale nationale indépendante pour la transition. Merci à notre confrère Félix Bonny, rédacteur en chef du site d'information l'infodrome.com. L'émission a été réalisée à Dakar par Noël Akapo, régie technique assurée à Paris par Valentin Blanc, chargé de production Richard Thierry Mboué Kijina. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs.
Africa, et Sandra Bassabam, Francis.
À tous les deux cette semaine. Donc c'était un beau tandem. Richard Thierry Mboué Kijina et Sandra Bassabam. Donc. Et je le disais, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end à vous, Liliane, et à tous nos auditeurs et auditrices.
Merci Francis Aloupo et la semaine prochaine nous serons en pleine Coupe du monde de football en Russie. La compétition démarre donc jeudi prochain. Francis,
je vous souhaite un bon voyage pour Moscou.
Non, vous m'avez convaincu, je reste, j'y vais plus, donc je serai avec vous la semaine prochaine.
Mais voilà, rassuré, bon week-end, au revoir.